les versets qui rappellent ces réalités du Jahannam, de l'enfer, la réaction du croyant, c'est de prendre des précautions. Qu'u anfusakum wa ahlikum nara. Prendre des précautions pour avancer dans le sirat al-mustaqim, avancer dans le droit chemin. Faire en sorte qu'on n'enchaîne pas les jours, les semaines et les mois dans l'insouciance, fil rafla. Nous constatons tous que le temps passe de plus en plus vite. Nous sommes bientôt à la fin du mois de Rajab. Nous allons démarrer Sha'ban et en quelques jours, nous serons déjà dans le mois de Ramadan, alors que nous avons encore en tête les souvenirs du Ramadan passé. Et cela le temps va s'accélérer d'année en année, d'époque en époque, parce que c'est là les petits signes de Qiyam, le fait qu'il n'y ait plus de baraka de le temps et que le croyant ou les personnes d'une façon générale verront le temps se passer de plus en plus vite. Ainsi donc, lorsque nous voyons les jours s'enchaîner, les week-ends qui se rapprochent, les mois qui commencent et qui se terminent, le musulman intelligent, on a toujours besoin de s'identifier à ce croyant kayyis, ce croyant intelligent qui prépare la vie après la mort. Mais cette personne-là ne peut pas se permettre de laisser les semaines s'enchaîner. Très souvent, lorsque la semaine se termine, on est content, parce que c'est le week-end. Très souvent, lorsque le mois se termine, on est content, parce qu'on aura le prochain salaire. Nous restons des êtres humains, c'est comme ça. Mais il serait totalement inconscient de se réjouir du temps qui passe vite, parce que lorsque le temps passe, il y a une répétition de certains bienfaits, ce serait totalement inconscient. Bien au contraire, le croyant qui voit le temps passer doit réaliser que sa rencontre avec Allah est de plus en plus proche. Et depuis quelques jours, on réfléchit souvent à ce verset. Lorsqu'Allah Azza wa Jal rappelle que le jour de Qiyam, les gens vont se demander « قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ » Ils vont se demander combien de temps nous avons vécu de ce monde. Et même la personne qui a vécu 80 à 90 ans, il aura l'impression qu'il a vécu un jour ou deux. Ou certains vont dire une partie d'une journée. Ça veut dire que la notion du temps de l'au-delà n'a plus rien à voir avec la notion du temps de l'au-dunya. La perception de ce que nous avons pu accomplir ou le temps que nous avons passé dans ce monde, ben cela, il n'en restera que des traces le jour de Qiyam. Et l'être humain va oublier le temps qu'il a passé ou les bienfaits qu'il a eus et il se rendra compte que la seule chose qui compte à l'instant T, ce sont les amal, les actions qu'il aura cumulées. Et de même, parfois dans notre vie, bon, une comparaison avec un certain décalage, quand nous voyons le temps passer, si on vous demande depuis le dernier Ramadan, ça date de combien de temps, on peut dire, c'est comme si c'était qu'il y a deux mois ou trois mois, pas plus. Alors qu'une année est bientôt écoulée. Pareil, des fois, vous allez en congé, en vacances quelque part, 15 jours, 20 jours, et à la fin du séjour, vous dites, c'est comme si que j'étais arrivé hier. Ça nous donne une idée que déjà dans ce dunya, des fois, nous nous perdons un peu de la perception du temps. Quand les choses s'enchaînent et cumulent, et à la fin du mouddin, à la fin de la période, on se rend compte que c'est passé tellement vite que c'était comme un jour ou deux. Mais dans le akhira, c'est pire. Là, on parle d'une vie. Autant nous, on se dépense physiquement, on fait des programmes, on planifie les événements de notre vie pour être le plus heureux, le plus épanoui, avoir plus de moyens, ainsi de suite. Ben, subhanallah, le jour de Qiyama, tous ces plans, toutes ces préparations, on parle de dunya, oui, bien sûr, qui concerne le dunya, seront totalement vaines, n'auront aucun intérêt au jour de Qiyama, restera les amal. On lisait encore ce hadith cet après-midi, que le serviteur sera en face du tribunal d'Allah, Azza wa Jal. Il sera présenté devant Allah. Et la personne regardera à sa droite, il y a l'enfer, à sa gauche, il y a l'enfer, devant lui, il y a l'enfer, et il aura avec lui que ses amal, que ses actions. Voilà les réalités. Voilà les choses que nous devons préparer. Et voilà le moment pour lequel nous devons être prêts. Et ne pas se perdre dans les efforts qui ne sont pas intéressants. De ne pas se perdre dans les activités qui ne nous seront pas profitables de l'au-delà. Ne pas perdre notre temps, un moment, d'une façon générale. Et ikhwani fillah, après avoir donc lu ces versets qui parlent du Jahannam, le mu'min doit se ressaisir et essayer de, comme on a dit, de faire en sorte que chaque joie de sa vie, ce soit un joie qui le permet de se rapprocher du Jannah et de s'éloigner de l'enfer, et faire en sorte que notre épouse et nos enfants à la maison, ben ils avancent vers le même chemin. C'est là une responsabilité qui nous incombe. Très souvent dans le Coran, lorsqu'Allah Rabbul Izza a cité des versets qui décrivent l'enfer, Allah Azza wa Jal ensuite enchaîne avec des versets qui décrivent le paradis. C'est le principe de targhib et de tarhib, d'encouragement et de mise en garde. Et ça, c'est toute la hikmah, la sagesse qu'il y a dans le Coran. Et dans Al-Ma'arij, après avoir cité la réalité, d'abord l'au-delà et les châtiments de l'enfer, Allah Rabbul Izza va rappeler quelle est la nature de l'être humain. Inna al-insana khuliqa halu'a. Oui, l'homme a été créé instable. Et halu'a peut être traduit également par anxieux et très inquiet. La nature de l'homme, c'est de se soucier pour les jours qui vont venir. Il est dans la nature de l'être humain que d'avoir peur, que de douter et de se poser des questions concernant son avenir et les ayyam, les jours qu'il va vivre, ainsi de suite. Donc, lorsqu'Allah Rabbul Izza atteste que l'être humain est de cette façon, tout comme dans d'autres versets, Allah Azza wa Jalla nous rappelle que dans la nature de l'être humain, bal tuhibbuna al-hayat ad-dunya, qu'il est dans la nature de l'être humain que d'aimer les biens de ce monde. Et un autre verset, subhanallah, le verset plus connu concernant les biens, ça ne me revient pas. Ah, innal insan, pas innal insan, al-rabbi lakanud. Un autre verset, bref, qui rappelle que l'être humain est attaché fortement à ses biens, au bienfait qu'Allah lui a accordé. Et Allah Rabbul Izzah, de sa clémence, nous rappelle quelle est la nature de l'être humain. Parce que c'est Allah qui a créé l'homme et qui a créé la nature de l'insan, la nature de l'être humain. Et lorsqu'Allah Rabbul Izzah t'explique comment est-ce qu'il t'a créé et quelles sont les choses qui vont émerger normalement, naturellement de ta personnalité, sachez que notre Seigneur de sa clémence nous donne la recette, on pourrait dire, ou nous trace le chemin pour qu'on puisse lutter contre la nature humaine. Car inna nafsa la ammaratum bisu, le nafs, notre ego, d'une façon générale, nous invite vers as-su, nous invite vers le mal. Ainsi donc, c'est une lutte permanente de ce dunya. Lutter contre les wasawis de Shaytan, les insufflations du diable, mais également lutter contre ce que nos passions nous demandent, ce que le cœur de l'être humain demande. Il y a dans notre cœur ce qui nous pousse vers le mal. Et nous avons déjà étudié, vous avez déjà entendu l'histoire du shaqq al-sadri, l'opération de la poitrine, que le prophète alayhi salatu wa salam avait subi à maintes reprises, et la première fois lorsqu'il était tout petit, et quel en était le but d'enlever, hein, qui complète le sang noir qui pousse l'homme à accomplir des péchés. C'est-à-dire que lorsque le prophète alayhi salatu wa salam subit l'opération de la poitrine, il devient ma'soum et mahfouz, il devient protégé par Allah. Il devient un homme parfait qui n'accomplira jamais un gouna, un péché, jusqu'à sa mort. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a quelque chose qui le pousse à accomplir des péchés. Maintenant, une personne peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'Allah nous crée avec ses penchants? Mais on peut se poser la question également, pourquoi est-ce qu'Allah crée les anges parfaits? Les anges, ce sont les seules créatures qui sont parfaites, créatures qui sont parfaites. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ils ne désobéissent jamais à Allah. Ils font ce qu'Allah leur a demandé de faire. Les malaïka, tabi'atuhum, de leur nature, créés de lumière. Ils ne font qu'obéir aux ordres d'Allah, sans jamais le désobéir. Allah a décidé que les malaïka sont créés de cette façon, avec cette nature. Et Allah a décidé que l'homme soit créé de terre et avec une nature qui, bien au contraire, c'est comme si que tu laisses une voiture sur une côte sans frein à main, et c'est une boîte manuelle, tu le laisses sur, fait longtemps que je n'ai pas conduit de boîte manuelle, tu ne mets pas de vitesse, d'accord? Ou c'est une boîte auto, tu mets sur un neutre, et sans frein à main, qu'est-ce qui se passe? La voiture descend. Dans la nature humaine, il est dans la nature humaine que de se laisser aller vers les péchés. L'homme, inna nafsa la ammaratum bisu. Sauf les personnes qui ont eu la guidée de la part d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, de la sourate Al-Ma'arij, Allah Rabbul Izzah nous annonce que innal insana khuliqa halu'a. Et Allah va expliquer pourquoi est-ce que l'homme est, comme ça a été traduit, qu'est-ce qui fait que l'homme a été créé instable. est très inquiet. Alors que le mu'min a besoin de stabilité. Quand on parle de istiqama, qu'est-ce que la istiqama? Qu'on peut traduire par, il y a un autre terme qui est pas mal non plus, qui est al-mudawama. Al-mudawama, c'est pour al-a'mal salihah. Et al-istiqama, c'est de le droit chemin umuman, l'accomplissement de bonnes œuvres et l'éloignement des haram. C'est, il y a une petite nuance, ça nous a été enseigné par le cheikh qui était là hier et avant-hier. Un cheikh qui venait de Riyad, qui a fait deux jours avec nous, subhanallah, et qui nous a illuminé, bien il l'a éclairé par le ilm. Je traduisais quelque chose, j'ai parlé d'istiqama, il dit là, hada la yusamma istiqama, mudawama. Quand quelqu'un continue et reste ferme dans une bonne action, ça s'appelle al-mudawama. La fermeté dans une bonne action. Et l'istiqama, c'est, d'une façon plus générale, c'est la fermeté dans les bonnes œuvres et l'éloignement du haram. C'est-à-dire que le droit chemin. Un moment. Donc, on revient, subhanallah. Allah, oui, Allah Rabbul Izzah nous rappelle que l'être humain est instable. Alors que le mu'min a besoin de stabilité, a besoin de fermeté. Quand on parle de sirata mustaqim, c'est un chemin rectiligne et droit. Et quand on emprunte ce chemin, on doit aller ni à droite ni à gauche. Et on a besoin de cette stabilité. De même dans notre vie, dans nos a'mal, on a besoin de istiqama dans toutes les bonnes actions, l'éloignement du haram. On ne veut pas être ce croyant qui un jour prie, le lendemain il ne prie pas, un jour il ne consomme pas du haram, le lendemain il le fait. On ne veut pas de ça. Parce que parmi les qualités des croyants, le summum cité dans le verset, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Allah Rabbi Izzah décrit les trois catégories d'êtres humains. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Il y en a ceux qui se font du tort. C'est-à-dire régulièrement, les gens qui vivent, qui se lèvent et qui se couchent dans le péché, qu'Allah nous protège. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. Il y en a qui sont entre les deux. Ils font des bonnes œuvres, mais malheureusement, ils font des péchés également. Ce qui veut dire qu'ils avancent, mais ils reculent. Ils avancent, ils reculent. Ils progressent, et ils régressent. On ne veut pas être celui-là non plus. Et la troisième catégorie, sabiqun bil khayrat bi idhnillah. Ceux qui avancent dans les bonnes œuvres par la grâce d'Allah, bi tawfiqin min Allah. Pour être dans le sirat al mustaqim, on a besoin de fermeté, on a besoin de stabilité et d'avancer fermement. Et Allah Azza wa Jalla explique que l'être humain est instable et l'être humain est très inquiet. Pourquoi? Et Allah Rabbul Izzah va nous décrire, va nous donner deux facettes de ce insan dans sa nature lorsqu'il se laisse aller à sa nature. Idha massahu ash-sharru jazua. Quand le malheur le touche, il est abattu. Wa idha massahu al-khayru manua. Et quand le bonheur le touche, il est refuseur. C'est pas le. Il y a peut-être des termes plus adaptés pour la traduction, il est refuseur. On va essayer de voir ce que ça veut dire. Le premier terme, je pense que tout le monde a compris. La première, khususiya, idha massahu sharru jazua, quand le malheur le touche, il est abattu. Ibn Kathir, rahimahullah, explique ce verset. Hey, idha asabahu, lorsque l'être humain est éprouvé, il a peur, il angoisse, et il craint de ne jamais retrouver une stabilité. Wa ya'isa, et il perd parfois espoir en Allah. Ça, c'est quelque chose qui est en toi. Ça, c'est quelque chose qui est dans ta nature. Fais en sorte que cette nature-là n'émerge pas. Parce que tout être humain, toute race confondue, toute ethnie, toute civilisation, toute culture, fait kulli zamanin wa makan. N'importe quel endroit, n'importe quelle époque. Nous sommes pareils. Nous avons ça en nous. Lorsqu'on a un coup dur, on est triste. Oui ou non? C'est normal. Mais après, il y a différents degrés. Il y a des personnes qui arrivent à maîtriser cette nature et avoir une déception, une épreuve. Et là, déjà, c'est un terme plus intelligent que de l'appeler par ibtila, épreuve. La personne, peut-être, elle est triste. Mais elle va s'arrêter à la première étape, la tristesse. Et être triste, ce n'est pas interdit. Au contraire, être triste, ça te permet de voir tes péchés effacés. Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, avait demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque celui-ci, alayhi salatu wassalam, avait parlé des épreuves qui touchent l'être humain, épreuves par lesquelles Allah pardonne ses péchés, augmente son grade et lui accorde de bonnes des récompenses. Enfin, ça m'a dit que même l'épine qui pique, qui te pique, tu te blesses avec quelque chose d'infime, ça aussi, sache que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Lorsqu'il t'arrive un problème, ce n'est pas un concours de circonstances. Ce n'est pas de la malchance, surtout pas. Ce n'est pas que je suis mal luné ou ainsi de suite, comme parfois il y a des gens qui ont certaines convictions qui sont proches de la superstition. Et ça, ce n'est pas bon. C'est-à-dire que lui, c'est quelqu'un qui est toujours chanceux. Moi, je suis malchanceux. Là, wallah, c'est Allah qui prédestine ce qui arrive. Et lorsqu'il t'arrive quelque chose qui t'affecte, qui te porte atteinte, sache que cela vient d'Allah. Et rien ne se produit, fil mulkillah, de le royaume d'Allah, sans l'autorisation du roi. Oui ou non? Rien ne se produit de le mulk d'Allah, c'est-à-dire dans Al-Alamin, de tout ce qu'Allah a créé, sans l'autorisation de Rabbul Alamin, du Seigneur des mondes. Ainsi donc, même tu te blesses légèrement, une petite goutte de sang qui sort, ou tu t'écrases, là c'est moi qui extrapole avec des exemples de la vie de tous les jours, hein. tu t'écrases le doigt dans une portière ou ainsi de suite, tu te cognes le petit doigt de pied avec une chaise, ça donne envie de dire de gros mots, ça, hein. Surtout quand ça arrive le matin au réveil, ça arrive, tout ça, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas que, ah, pourquoi est-ce que ce meuble était là? Pourquoi est-ce que bon, les enfants, ils ont laissé traîner leurs jouets. Tu te lèves le matin, tac, tu marches sur un ego. Allahu Akbar. Comment c'est énervant et ça fait mal. Mais certes, il y a Asbab, il y a l'être humain qui a fait. Mais sache que l'événement qui se produit, la douleur que tu ressens, c'est Allah qui te l'a prédestiné. Et ça, c'est une rahma. Toi, tu vas t'énerver. Ouais, toujours en train de laisser tes affaires traîner. Ou alors telle chose, c'est mal rangé, mal organisé. Ou peu importe les situations d'épreuves. Là, je parle vraiment des épreuves de aura des pâquerettes, là, hein, des petits trucs qui nous font mal. Je ne parle pas des maladies, l'hôpital et des trucs envahissants qu'Allah nous protège. Ne jamais souhaiter des épreuves. Ne jamais souhaiter être éprouvé pour être pardonné. Là, Wallah. Vous voyez comment est-ce que ce dîn, il est rempli de rahma. Allah t'annonce, si quelque chose t'arrive, Allah te pardonne tes péchés, augmente ton grade et t'accorde des récompenses. Mais ne demande pas à être éprouvé. Là, bil'aks, demande Allah al-afwa wal-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Fi dunya wal-akhirah. Demande à Allah la protection, le bien-être, la quiétude, l'apaisement, la facilité de ce monde et dans le-delà. C'est-à-dire que le mu'min, il va de l'avant. Il demande que le bien. Mais en demandant tout le bien du monde et à tous les endroits du monde possibles, même les plus nobles comme Mecca, Arafat, Medine, ainsi de suite. Si Allah t'éprouve par quelque chose qui te cause préjudice, sache que c'est là un message de ton Seigneur, une épreuve de ton Seigneur, mais avant tout une clémence de ton Seigneur, une rahma. Celui qui n'a pas iman voit les difficultés comme de la malchance ou comme quelque chose d'injuste. Alors que le mu'min voit les épreuves comme une opportunité. C'est-à-dire que comment ça? On est sadomaso? Non, on n'est pas sadomaso. Ibn Uthaymin, rahimahullah, dans Sharh de Riyad al-Salihin, un commentaire magnifique sur les hadiths qui parlent des épreuves. On a déjà cité ça au moins trois fois. J'espère que tout le monde s'en souvient. Il dit qu'il y a quatre catégories de croyants dans les épreuves. Il y a celui qui, virgule, lorsqu'il est éprouvé, il est tellement colère qu'il aurait souhaité que cela touche quelqu'un d'autre, mais pas lui. Ça, c'est le pire. C'est la personne qui rate son épreuve. La deuxième catégorie, c'est celui qui est éprouvé, qui ne dit rien, qui n'ouvre pas sa bouche, qui ne laisse pas, qui n'extériorise pas sa frustration, mais qui intérieurement est frustré. Intérieurement, il n'accepte pas. Il aurait aimé ne pas vivre ces ayam, ne pas vivre cette situation, ces jours, et il aurait préféré être sain et sauf, être protégé et vivre heureux. Certes, il n'a rien dit de mauvais. Et tant que l'homme ne le dit pas, ce n'est pas un péché. Mais intérieurement, il n'accepte pas qu'Allah l'ait éprouvé. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à donner un sens à l'épreuve. Vous voyez, il n'arrive pas à comprendre l'importance de ce qui lui arrive. Troisième catégorie, la personne qui, lorsqu'elle est éprouvée, réagit correctement, s'en remet à Allah, fait confiance à Allah et il demande à Allah al-faraj, l'ouverture, et al-nusra. Inna ma'a al-usri yusra. Ça, c'est une réaction de croyant, oui ou non? On aurait pu, et il sait pertinemment que ça, c'est une épreuve de la part d'Allah. Le but, c'est pardonner mes péchés, augmenter mon grade et m'accorder des récompenses. Il y a que, on a l'impression que lui, il a tout compris et que c'est le meilleur. Mais non, il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui. Cheikh, il explique qu'il y a un manzila qui est au-dessus de lui, c'était le degré des sahaba ridwanullah alayhim ajma'in. C'était des personnes qui, lorsqu'ils avaient une épreuve, ils Remercie Allah. Allahu Akbar. Yashkurun Allah. Il les était éprouvés dans ce dunya. Il remercie Allah parce qu'il savait que cette épreuve-là, c'est une rahma d'Allah. Allah envoie une difficulté du sama, depuis du ciel, depuis le ciel. Allah envoie une difficulté depuis as-sama, depuis le ciel, qui te touche. Le but, c'est d'augmenter ton grade, pardonner tes péchés et remplir ton mizan et hasanat, remplir ton livret de bonnes actions par l'épreuve. Et donc la personne réalise que hadi furfa min Allah, c'est une opportunité de la part de ton Seigneur. Certains pieux prédécesseurs avaient l'habitude de dire que des fois, par nos bonnes œuvres, nous n'arrivons pas à atteindre de haut degré. Je répète, parfois, uniquement par nos bonnes actions, nous ne parvenons pas. Nous n'arrivons pas à atteindre de haut degré. Il faut les épreuves qui viennent d'Allah l'Ibtila, parce que en une journée d'épreuve, peut-être, tu obtiens ce que tu aurais pu cumuler en un an de a'mal. Et Wallahu ta'ala a'lam. Allah connaît le mizaniya, l'échelle des épreuves, ce qu'on peut nous acquérir par nos bonnes œuvres et ainsi de suite. Est-ce que nos bonnes actions valent quelque chose vraiment? Est-ce que nos prières pèsent lourd vraiment? Est-ce que nous sommes sincères de nos bonnes actions? Est-ce que nous réalisons que nous sommes en train de faire l'ibadah d'Allah? Ou alors c'est juste une routine, une tradition? Parfois nos bonnes actions, c'est comme une coquille vide. Qu'Allah nous protège. C'est vide, il n'y a rien dedans, il n'y a que l'apparence. Mais les épreuves, par contre, ça c'est le vrai. Les épreuves, quand ça te touche, haqiqa, que ce soit une maladie, que ton fils, ton enfant est malade, ou que tu perds quelqu'un qui t'est cher, ou difficulté financière ou familiale ou autre chose, ça c'est du vrai. Ça là-dedans, c'est mukhlis, il y a la sincérité. Parce que ça, c'est pas toi qui décides. Ça vient d'Allah. La bonne action, c'est toi qui l'as produit, bi'idhnillah, oui ou non? C'est toi qui lèves les mains, qui prie, qui lit Al-Fatiha, qui lit la sourate, avec concentration ou non, avec dévotion ou non, présence d'esprit ou non. Ça vient de toi. Mais quand tu es touché par une épreuve, l'épreuve, elle vient d'Allah. Ibtila min Allah. Et quand ça vient d'Allah, il n'y a que du bien pour toi. Maintenant, à toi de savoir, à toi de voir comment tu prends cette épreuve qui vient. Et donc, on a vu les quatre catégories et les sahaba, eux, ils remercient Allah parce qu'ils savaient que c'était quelque chose qui vient d'Allah et qui a pour but d'élever leur grade et de voir leur réaction. Et quand Allah t'éprouve, c'est qu'il fait un compte avec toi, oui ou non? Si Allah te délaisse complètement, il te laisse. C'est comme si Allah t'ignore. Mais quand Allah t'éprouve, c'est qu'Allah te regarde, Allah te considère, Allah veut quelque chose de toi, Allah attend une réaction de toi. Donc sache que tu es ciblé entre guillemets par Allah. Et quel plus grand ni'ma, quel plus grand honneur que de savoir qu'Allah fait un compte avec moi, qu'Allah s'occupe de moi, qu'Allah m'envoie des situations pour que j'obtienne quelque chose, plutôt que d'être totalement ignoré par notre Rabb. Il y a des gens qui sont totalement ignorés par Allah, oui ou non? Qui sont-ils? Qui sont-ils? Hudhaifa n'est pas là. Hudhaifa, c'est lui qui nous rappelle les versets quand on oublie. Et justement, il y a un verset dans Wa'alamu qui ne nous revient pas. C'est le verset qui rappelle que lorsque des gens ils vivent dans le ma'asiyah, de la désobéissance totale, et qu'ils s'éloignent d'Allah, à un moment donné, Allah ne se préoccupe plus d'eux. Et ce qu'ils voulaient, Allah leur donne. Fatahna alayhim abwaba kulla shay. Hatta idha farihu. C'est peut-être pas d'awalamu, ça c'est ailleurs, mais ça va dans le même sens. Hatta idha farihu bima outu. Allah leur accorde ce qu'ils voulaient. Tu veux dunya, Allah te donne le dunya. Tu veux l'honneur, et pour cela, tu es prêt à tout. Khalas. C'est ça ton maqsad. Tu veux les biens de ce monde. Et pour ça, tu n'as pas de limite. S'il faut voler, tu voles. S'il faut détourner, tu détournes. S'il faut corrompre, tu corromps. S'il faut accepter Rishwa, des pots de vin, tu acceptes. S'il faut aller voir le sorcier pour détruire quelqu'un, tu le fais. Ya'ni, il n'y a pas Allah. Il n'y a pas la crainte d'Allah dans tes objectifs. Ça, tu as écarté complètement Allah, Rabbul Izzah, de tes maqasid. Idhan. Ainsi donc, Allah t'accorde ce que tu veux. Prends tout. Et le jour où Allah décide de sévir, Allah sévit de façon tragique et difficile. C'est-à-dire qu'il y a une phase où l'homme jouit, profite, il a l'impression d'être heureux. C'est parce qu'Allah l'a abandonné. Allah ne veut plus de lui. Allah ne veut même pas le ramener vers lui. Ça, c'est la pire des choses. Toi, tu le vois heureux, épanoui, grosse voiture, gros loto, en train de profiter, il voyage, il mange, ses chariots, quand il va à Carrefour, c'est comme une montagne. Et tu dis que, ah, comment lui, il est heureux. Comment lui, il mange bien. Comment lui, il profite. Fais attention. Ne pense pas que celui qui profite, c'est celui qui est épargné par Dieu. Là, ça peut être quelqu'un qui a encore des bienfaits. Après, on ne peut pas juger. Hein. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont aisés, ils sont délaissés par là. Attention, ne prenez pas les choses comme ça. Chaque personne, c'est au cas par cas. C'est en fonction de son passé. On pourrait même dire de son passif. Et Allah connaît sa situation. Certaines personnes, Allah accorde des biens et leur permet de faire de bonnes œuvres avec leur argent, leur rang et ainsi de suite. Pour d'autres, s'ils ont tout ça, c'est parce qu'ils se sont détournés, ils ont tourné le dos à Allah et Allah leur a accordé parce que Allah a vu qu'en eux, il n'y a plus rien de positif. Allah les laisse jusqu'à ce qu'un jour, Allah va tout reprendre, va les sévir et Allah et ces gens vont réaliser que tout ça, ce n'était strictement rien. Ainsi donc, ikhwani fillah. Pour revenir, on essaie de remonter un peu vers le, on remonte un peu tout ça vers le verset qu'on a cité. Idha asabahu dharru, l'être humain dans sa nature, lorsqu'il est éprouvé, il a peur, il craint et il a des doutes. Est-ce que cette difficulté-là un jour va diminuer, va disparaître? Et est-ce que je vais retrouver mes joies d'avant, mes joies d'antan, mes joies heureuses? Et si on analyse ces réactions humaines, on se rend compte que, ben oui, ça fait partie de nos angoisses. Quand quelqu'un est faible psychologiquement, il est malade, ton malade, par exemple, je ne sais pas, il se casse une jambe ou il y a un problème, il ne peut pas marcher. Si il se laisse aller à ses angoisses, il finira par penser, imagine que jamais plus je pourrai marcher. Imagine que je reste alité toute ma vie. Comment ça à angoisser, à aller dans une spirale d'angoisse, ça c'est de la faiblesse psychologique. Mais on pourrait appeler ça également de la faiblesse spirituelle. Manque de confiance en Allah. Tu n'as pas réalisé que ça c'est une épreuve. Allah envoie l'épreuve et Allah reprend l'épreuve quand il le veut et quand il le décide, avec ou sans intermédiaire. Ainsi donc, idha asabahu dur, lorsque l'être humain est éprouvé, il a peur, il angoisse et il craint pour le futur, il craint de ne jamais retrouver la quiétude et la tranquillité. Alors, et le dernier point, la dernière, on va dire, le dernier degré, le pire des degrés de cette nature humaine, c'est al-ya'su. Al-ya', ça veut dire quoi? Le désespoir. Il ne croit pas, il ne pense pas une seconde qu'Allah peut lui venir en aide. C'est-à-dire que la personne, dans son épreuve, il est désespéré. Qu'est-ce que Yusuf a.s. avait dit? La taqnatu mir rahmatillah. C'est Yusuf ou Yaqub? Yaqub alayhi salam. La taqnatu mir rahmatillah. Innahu la yay'asu mir rahmatillah illa al-qawmul. C'est kafirun. Barakallahu fi. Ne désespère jamais de ton Seigneur. Le mu'min ne doit jamais perdre espoir ou oublier son Seigneur. Donc la dernière étape de cette nature humaine, c'est le fait que l'homme, après avoir eu peur, il a la crainte et il angoisse, il finit peut-être par perdre espoir en son Seigneur. Ça, c'est la pire des choses. Et quelle est la grande problématique en termes de spiritualité? Le manque à gagner, on va dire. J'utilise un autre terme, une autre expression. Quel est le manque à gagner spirituel lorsque l'homme se laisse aller à cette nature humaine? As-Sa'di, rahimahullah, explique dans Ibn Kathir. C'est pour ça qu'on a deux livres. On revient à Sa'di. Ay, la yasta'milu fi dhalika as-sabra wa la ar-rida bima qada Allahu. Lorsque cette personne est éprouvée, la personne ne profite pas de la situation d'épreuve pour vivre as-sabru. Et as-sabru, la patience, c'est une qualité des croyants. Allah nous demande, ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salati. De trouver refuge par la patience et la prière. Dit que cette personne, quand elle est éprouvée, elle ne pensera même pas à être patiente, à faire preuve de courage. Mais j'aime pas le terme courage. Quand courage, c'est comme si qu'on est fort dans la tête. Non, on nous a pas demandé d'être fort dans la tête, parce que se suffire de sa force morale pour affronter les épreuves de la vie, ce n'est pas suffisant. Si tu veux avoir la force pour gérer les problèmes de la vie, tu dois être capable de les identifier. Identifie ces problèmes, ce sont des épreuves qui viennent d'Allah, donne un sens à ces épreuves, et là, c'est ton iman qui te permet d'être patient. C'est pas ta force mentale, c'est ton iman, ta foi, qui te permet de réaliser que c'est là, ibtila, min Allah. Donc, la personne qui se laisse aller à sa nature humaine dans les situations de difficulté et qui arrive jusqu'au désespoir, cette personne, dans les épreuves, n'aura même pas pu vivre cette qualité de foi qui est as-sabr, la patience, et cette autre qualité de foi que nous devons éprouver dans les situations d'épreuve qui est ar-ridha bima qada Allah, être satisfait des décisions d'Allah. Être satisfait, c'est que quand tu vis cette situation d'épreuve, tu te dis que c'est Allah qui me l'a prédestiné. Et ce qu'Allah a décidé pour moi, nashkurullah, nahmadullah, radina ya rabb, istaslamna, on se soumet à toi et on accepte ton qada ou ton qadr, ton destin et ce que tu nous as prédestiné. Ça, c'est une qualité de foi qui est extraordinaire, ça. Ça découle de iman bil qada et wal qadr. Les ulama disent que le plus haut degré de foi, c'est lorsque le mu'min a complété al-iman bil qada wal qadri khayrihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Quand le mu'min a vécu complètement, a complété sa foi sur le destin, en réalisant que tout vient d'Allah, c'est là que le iman est vraiment au top dans son cœur. C'est là qu'il est un vrai croyant, parce qu'il arrive à faire la relation entre le dunya et le akhira. Que tout ce qui vient d'Allah, c'est pour nous éprouver. Et que si je fais preuve de patience, je suis en train de construire mon akhira. C'est ça le plus important, donner un sens. Donne un sens à ce qui t'arrive. Sache que dans les épreuves, dans les situations difficiles, Allah t'ouvre des chemins. Et que si là, aujourd'hui, je fais preuve de patience, je suis en train de construire mon jannah. Je suis en train de construire mon paradis. Et chaque soupir, chaque douleur, chaque souffrance, chaque tristesse, chaque frustration sera une source de réconfort. Mais l'axe, bien au contraire, sera une source de réconfort parce que tu te dis, là, de ce dunya, je subis. Mais je suis en train de construire quelque chose de magnifique qui m'attendra, lorsque je retournerai auprès d'Allah Azza wa Jal. Et comme on avait dit tout à l'heure, et puis j'ai perdu le fil, il y en a qui s'arrêtent à la première étape de cette nature humaine qui est la tristesse. Et ça, il n'y a pas de mal. Parce qu'Abu Bakr al-Siddiq, après avoir écouté le prophète concernant, quand il a expliqué que même l'épine qui pique le pied, le croyant, c'est une épreuve, et Abu Bakr al-Siddiq avait demandé au prophète d'Allah, qu'en est-il de la tristesse? Il y a des fois où on est mélancolique, oui ou non? Ça arrive pas. Il y a des fois, comme on dit, on n'a pas le moral. Comme on dit, on a le cafard. Ça veut dire quoi, avoir le cafard, ne pas avoir le moral, et ainsi de suite? C'est que ton cœur est rempli de tristesse. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu es déprimé. Pourtant, il ne s'est rien passé. Sache que ça, c'est le plus bas niveau d'épreuve. Mais ça aussi, c'est une épreuve de la part d'Allah. Ça, c'est la rahmat d'Allah qui, des fois, met al-huzn, la tristesse de ton cœur, sans qu'il y ait une quelconque raison. Mais ça fait partie des épreuves qui viennent d'Allah Azza wa Jalla. Donc, si tu t'arrêtes à là, il n'y a pas de mal. Si l'étape suivante dans la situation d'épreuve, tu te mets à pleurer, là aussi, il n'y a pas de mal. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, avait pleuré à la mort de son fils, oui ou non? Et les sahaba, ils avaient demandé au prophète d'Allah, pourquoi est-ce que tu pleures? Ils pensaient que le croyant ne doit jamais pleurer. Que quand tu acceptes la décision d'Allah, tu es ferme et fort comme un roc, il n'y a pas une larme que le prophète dit que là, ça c'est la rahma, ça c'est le cœur de l'homme, ça c'est la rahma, l'amour que Allah a mis dans le cœur de l'être humain, et il est normal que l'homme éprouve ses sentiments, il n'y a pas de mal. Le prophète, alayhi salatu wassalam, une fois, s'était arrêté près de la tombe de sa maman. Oui ou non? Comment s'appelait sa maman? Amina. Elle est décédée où ça? À Abwa, un endroit entre Makkah et Madina. Le hadith stipule que le prophète s'est arrêté près de la tombe de sa maman. Fabaka wa abkan nas. Fabaka wa abkan nas. Il s'est mis à pleurer. Et tellement le prophète a pleuré près de la tombe de sa maman que les sahaba autour étaient attristés. Eux aussi se sont mis à pleurer. Pourquoi? Pour la tristesse du prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que les sentiments humains, il n'y a pas besoin forcément de les combattre ou de lutter contre la cette étape de la nature humaine là. Ce n'est pas un péché que de verser des larmes, mais donne un sens à ces larmes qui coulent. Fais en sorte que quand tu pleures, tu arrives à parler avec ton Seigneur. Fais en sorte que quand tu as des larmes qui coulent, que tu peux en même temps lever tes mains et demander doua à Allah. Parce que le doua de l'éprouver, c'est extraordinaire ça. Amman yujibul, qui complète? Ah, Hudhayfa nous manque cruellement ce soir. Amman yujibul mudtarra idha da'ahu. C'est quand tu es dans la difficulté, quand tu es, comme on dit, dans le dur, quand tu es dans les épreuves, quand tout va bien, tu fais doua. Alhamdulillah, doua ou al-ibada. Mais quand tu es vraiment au fond du trou et que ça ne va pas, et que là tu lèves les mains, tu demandes à Allah, sache que ça, c'est des doua qui sont extraordinaires. Ça, c'est des doua qui ont encore plus de poids et de valeur. Ainsi donc, donne un sens à tes épreuves. Sache que les épreuves, Allah pardonne tes péchés, augmente ton grade, t'accorde des récompenses. Mais dans tes épreuves, dans tes larmes qui coulent, lève tes mains et demande à Allah tout ce qui t'est cher. Parce qu'Allah écoutera encore plus les doigts de celui qui est éprouvé parce que l'épreuve vient de lui. Allah t'a éprouvé et tu orientes ton cœur vers lui. C'est-à-dire que tu es en train de suivre le bon chemin là. Là, tu es dans le droit chemin. Quand tu subis une épreuve qui vient d'Allah et que tu orientes ton cœur vers lui, ça descend et ça remonte. C'est-à-dire que tout est clean. Tu es en train de suivre le déroulé de l'épreuve et tu as la réaction du croyant qui, lorsqu'il est éprouvé, oriente son cœur vers Allah. Maintenant, le cœur s'oriente vers Allah, demande. Et sache qu'Allah va t'exaucer. Vous voyez comment est-ce que la foi peut nous faire changer, peut changer notre perception de la vie. Entre absence de foi qu'Allah nous protège, synonyme de désespoir et de suicide ou d'autre chose, et présence de iman, l'épreuve est synonyme d'espoir et d'attente de miséricorde et de clémence de la part d'Allah, et l'occasion de voir nos doigts exaucés. Donc, si on a cité ce premier verset et on s'est un peu attardé, c'est parce que ça nous touche tous. Il n'y a pas une personne de cette assemblée qui n'a pas une épreuve de sa vie. C'est impossible. Parce que le dunya est fait comme ça. Nous vivons une vie d'épreuve. أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا. Les épreuves, ça fait partie de la sunnatullah, de l'organisation d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas une personne qui connaît dans cette assemblée qui n'a pas une épreuve, que ce soit santé, que ce soit pour sa famille, son épouse, ses parents, pour ses enfants, son travail, sa condition financière, relation de couple, et il arrête les dhalik. Et donc, ikhwani fillah, vivons ces épreuves comme une rahma de la part d'Allah Azza wa Jal. Et donnons un sens à l'épreuve. Faisons en sorte que cette épreuve-là, ce soit notre mi'raj, ilallah, que ce soit notre voyage nocturne, on est le mois de Rajab. Ce n'est pas le buraq qui nous amènera vers Allah, ce seront peut-être nos épreuves. Ce ne seront peut-être pas nos salats parce qu'elles sont mauvaises, parce qu'elles sont sans concentration, parce qu'on pense à mille et une choses et on ne pense pas à Allah dans nos salats. Wallah musta'an. Ce ne sont peut-être pas nos prières et nos lectures du Coran qui nous amèneront vers Allah, mais peut-être nos ibtilas, nos épreuves. Faisons en sorte que ces épreuves-là, ce soient nos mi'raj, et en ayant la bonne réaction de foi, on atteindra l'objectif. Donc, quand Allah Rabbul Izzah raconte et explique, la nature de l'être humain, dans les moments de difficulté, il arrive à le désespoir, et autre réaction qu'on verra la prochaine fois, dans les moments de bonheur, comment il réagit de la mauvaise façon, c'est qu'Allah nous rappelle que vous êtes créés comme ça, luttez contre cette nature. Et que la seule chose qui vous permettra de lutter contre la nature humaine, c'est al-imanu billah avec les amal saliha. Et là, précisément, c'est cité illal musallin, traduit par sauf ceux qui pratiquent leur salat. Et on va s'arrêter là pour ce soir. C'est-à-dire que celui qui pratique leur salat, il aura un tel changement dans sa vie. Je ne parle pas uniquement des rythmes de prière, il vient et part. Il aura un changement dans la globalité, dans sa perception du dunya. dans sa perception des épreuves aussi, et que lui, il ne sombrera jamais dans le désespoir, dans les moments de difficulté, ni dans l'ingratitude, dans les moments de bonheur. Donc, la clé, c'est la salat. La salat te donnera toutes les qualités extérieures et intérieures pour vivre ton iman, vivre les épreuves, et donc réussir ce dunya d'une façon générale. Ma tawfiq illa billah. Ça va être là. La semaine prochaine, je pense qu'on ne fera pas de programme. Si je ne me trompe pas, vendredi prochain, c'est le 13. Le 13, on a une réunion. Une réunion donc dans le sud. Ça concerne le halal, la commission de halal. Et le vendredi, dans une, Allah Musta'an, le 20, on a une autre réunion. Ça concerne le travail, les masajid. Donc le 13 et le 20, on ne fera pas de dars. Sauf si, bon, on a changé d'avis, mais sinon on ne fera pas. Et donc, on se retrouvera le 27, Inch'Allah. Et on sera déjà dans le mois de Sha'ban, il me semble. Dans 3 semaines, on sera bien sûr dans le mois de Sha'ban. Qu'Allah Rabbul Izzah nous permet de rester ferme durant ces ayyam de Rajab. Faisons le maximum de saum, ikhwani fillah. Jeûnez beaucoup durant ce mois de Rajab. Et redoubler d'efforts durant le mois de Sha'ban. Ainsi donc, aujourd'hui c'est vendredi. Lundi, faisons le niyat de jeûner. Le lundi qui vient. Jeudi, faisons le niyat de jeûner. C'est extrêmement important de jeûner durant le mois de Rajab. Et dans le mois de Sha'ban, on verra ensuite, on expliquera de faire encore plus d'efforts, qu'Allah nous accepte. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Alhamdulillah rabbil izzati.